Ça sent bon chez vous.
C'est lundi, c'est ravioli.
Et vous restez dîner?
Moi, je veux proposer aux concitoyens qui ont moins de moyens une agriculture qui soit française, propre, saine et durable.
Mais comment prétendez qu'un castron propre et durable quand on met des pesticides pour tuer le vivant? C'est ça, le problème, il est là.
La chichoumeille de résistance. Ou comment se nourrir en milieu rural. Une émission de Dominique Paturel et Benoît Daviron.
Mais en fait, c'est ça notre mesure part. Manger bien pour rien.
Bonjour à tous et à toutes. La chichoumeille de résistance est de retour pour son épisode 4. Et dans cet épisode 4, on va clôturer ce chapitre qu'on a ouvert autour de l'histoire de l'agriculture. Et donc on est là dans le moment où, Benoît, tu nous parlais des trois périodes d'hégémones extrêmement importantes qui vont permettre la transformation du rapport à la biomasse.
Voilà, on en était là. Et donc, j'ai commencé à raconter un peu ce rapport à la biomasse des Provinces Unies, donc pays hégémonique dans l'économie monde européenne au XVIIe siècle. Avec donc cette façon, qui est un peu la seule façon finalement dans le contexte du métabolisme solaire, cette façon qu'avaient les Provinces Unies finalement d'arriver à attraper de la biomasse lointaine, parce que... Dans le cadre du métabolisme solaire, c'est la seule façon, puisqu'on n'exploite pas les ressources du sous-sol, ben c'est la seule façon de devenir plus riche et plus puissant que les autres, c'est d'aller arriver à attraper plus de biomasse d'origine lointaine. Donc il le fait, je l'ai expliqué, autour de la Baltique, pour ce qui est de produits de base, vraiment des produits alimentaires, des produits de la biomasse non alimentaire aussi, et puis des épices qu'il va aller chercher en Asie.
Alors, juste, on précise juste que quand tu parles des Provinces Unies, c'est les Pays-Bas d'aujourd'hui.
Voilà, oui, les Provinces Unies, pardon, c'est les Pays-Bas d'aujourd'hui, ou on dit souvent la Hollande même, en France, tout simplement. La particularité, on pourrait dire, par rapport à d'autres situations dans l'histoire longue qu'on a pu connaître, c'est que les Provinces Unies, bien sûr, utilisent la force, la violence à l'occasion, en particulier contre les Portugais ou des choses comme ça, mais obtiennent leur biomasse beaucoup par l'échange, par le marché. En fait, par l'échange marchand. Ce sont des commerçants qui arrivent à créer le désir chez d'autres, par exemple chez les nobles polonais, pour que ceux-ci leur achètent des produits et leur vendent du blé en échange. Hein, c'est quand même c'est important de souligner que c'est le marché qui permet, la relation marchande qui permet de fonder cette accumulation de biomasse qui profite aux Provinces Unies. Rome, à sa façon, n'a pu exister que parce qu'elle importait de la biomasse de distance très lointaine. Rome, la Rome de l'Empire, hein, de l'Antiquité. Mais elle le faisait dans un cadre contraint, c'est-à-dire que son blé venait d'Égypte et l'Égypte était obligée, parce que soumise, de fournir du blé à Rome. Ce n'était pas une relation marchande. Là, on a affaire à une relation marchande. Il se trouve que, donc, d'une part, les Provinces Unies ont deux ressources, qui ça peut paraître bizarre, mais deux ressources pour convaincre la noblesse polonaise de lui vendre du blé. C'est d'un côté les épices qu'elle contrôle, qui intéressent la noblesse polonaise. Et puis, c'est les harengs aussi. Enfin, les harengs, ça a un succès fou hein, en Pologne. Et ils sont prêts, pour acheter des harengs, à vendre du blé pour avoir l'argent nécessaire pour acheter des harengs. Ça peut paraître des détails, mais c'est important parce que c'est le marché. Hein, c'est le marché qui fait fonctionner cette affaire-là. Donc, première phase, 17e siècle. L'hégémone suivant seront le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, comme on dit souvent en France. Le Royaume-Uni, donc 19e siècle, qui va arriver à être hégémone en s'imposant, donc, pour la succession des Provinces Unies, de la Hollande, s'imposant contre la France. Hein, le XVIIIe siècle est marqué par la rivalité entre la France et le Royaume-Uni. C'est une guerre mondiale, hein, pratiquement, c'est-à-dire que les Français et les Anglais vont se faire la guerre au Canada, en Inde, sur le continent européen. Donc on a pratiquement une guerre mondiale, en fait, entre les deux, que l'Angleterre va finir par gagner. Le symbole de cette victoire étant Waterloo 1815, hein, le moment où vraiment l'Angleterre s'est imposée comme hégémone à l'échelle de l'économie monde européenne. Le problème donc des Anglais et des Français au XVIIIe siècle, c'est d'une part la rivalité l'un face à l'autre, et puis aussi d'arriver à s'imposer face aux provinces unies. Et surtout d'arriver à remettre en cause sa domination, la domination des provinces unies, donc de la Hollande, sur le commerce à longue distance. Comment arriver à faire ça? Et comment en particulier arriver à faire face à leur déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à acheter des produits aux provinces unies, ils en achètent beaucoup plus qu'ils en vendent, ils ont un problème de balance commerciale. Donc ils importent plus qu'ils exportent. Situation classique, par exemple, situation des États-Unis aujourd'hui face à la Chine. Il va y avoir deux façons de faire ça et qui vont être très importantes pour ce qui va se passer dans la culture. La première, c'est d'acquérir et de conserver des colonies. On va pouvoir produire des biens qu'on importait précédemment. Et là, on a affaire à la première phase de colonisation qui va beaucoup concerner des îles et des îles tropicales. C'est les Antilles, par exemple, ou c'est la Réunion. On va pouvoir faire pousser dans ces îles-là des plantes, des produits, produire des produits en fait, qu'on importait avant d'Asie via les provinces unies. En fait, donc, c'est des produits, des épices et des drogues, drogues au sens large, hein, c'est-à-dire y compris sucre, café, cacao, mais c'est des épices au sens de noix de muscade et compagnie. Donc, tous ces produits qui étaient importés initialement d'Asie, mais aussi le coton, par exemple, les fibres de coton qui sont importées d'Inde, on va chercher à les produire dans des colonies. Et donc produire du sucre, de l'indigo, du café, du cacao dans les Antilles, etc., etc., sous forme dans le cadre de plantations esclavagistes. Donc ça va permettre de ne plus importer de produits asiatiques via les provinces unies, mais aussi d'en exporter même. En fait, c'est une monnaie d'échange, ces produits exotiques, ces drogues et ces épices. C'est-à-dire qu'une énorme partie de ces produits, que ce soit pour la France ou l'Angleterre, sont réexportés dans le reste de l'Europe pour récupérer des devises. C'est une source de devises, en fait. Il faut les voir comme des devises plus que des biens de consommation immédiats. La deuxième façon de rivaliser avec les provinces unies, cette puissance qu'il faut vaincre, c'est de mieux exploiter le territoire national, d'intensifier l'exploitation du territoire national. Ça va passer par la construction du marché national, c'est-à-dire d'unifier l'espace national en construisant des routes, des canaux, en remettant en cause toutes les barrières aux échanges, toutes les taxations internes qui pouvaient exister. Et puis ça va être aussi d'intensifier la production agricole. Et c'est ce qu'on appelle la révolution agricole anglaise, hein, en fait, qui est finalement le transfert de techniques qui étaient déjà utilisées par les provinces unies ou par les flamands, l'utilisation de légumineuses, etc. Les enclosures, c'est-à-dire remettre en cause les terrains communaux, les terrains qui appartenaient à des communautés paysannes, les privatiser pour augmenter la production, en particulier d'animaux à laine, hein, de moutons, en fait, dans le cadre de l'Angleterre. Donc ça, c'est la première intensification de l'utilisation du territoire. Puis la deuxième, ce sera la révolution industrielle même, c'est-à-dire l'exploitation du charbon. Le charbon, c'est une façon d'intensifier, finalement, de mieux utiliser le territoire national. Plutôt que d'aller chercher au loin des ressources, eh ben, on va exploiter le charbon qu'on a sous les pieds. Les Anglais vont être les champions du monde dans cette affaire-là, vont faire mieux que les Français et vont arriver à s'imposer à la fois sur les provinces unies et sur la France. Donc de nouveau Waterloo 1815. Fort de cette victoire militaire, fort de cette puissance militaire qui leur permet de contrôler et de sécuriser en fait les mers, hein, donc de pouvoir faire circuler des bateaux sur l'ensemble des océans de la planète, et doté de la machine à vapeur et d'un certain nombre d'autres innovations techniques, comme par exemple le câble sous-marin, le télégraphe, mais aussi des innovations institutionnelles importantes. On n'aura pas le temps d'en parler, mais le marché à terme, par exemple, c'est une innovation très importante. Ils vont vraiment pouvoir mettre en place tout un système de commerce international à l'échelle de la planète, de choses très lourdes éventuellement, de blé, de maïs, de viande, quand une fois que la congélation sera au point, de produits laitiers, etc., etc. On est vraiment avec les Royaumes-Unis, donc c'est un peu une reproduction de ce qu'ont fait les provinces unies, mais à l'échelle de la planète, en fait, à l'échelle de continents entiers qui vont être exploités, et avec une logique de division internationale du travail, c'est-à-dire que l'Angleterre va se spécialiser dans on va l'appeler l'atelier du monde, hein, dans les biens manufacturiers, les biens industriels, et puis d'autres pays vont se spécialiser dans les produits agricoles. L'Argentine, par exemple, mais qui va connaître une vraie prospérité, hein, dans ce contexte-là, avec une forte migration européenne et qui va avoir une exportation, une croissance et une prospérité remarquable, hein, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Argentine. Buenos Aires, en Argentine, n'a rien à envier à Paris. Je veux dire, il y a des tramways, il y a des opéras, il y a de l'électricité. Enfin, on a des pays qui sont prospères en exportant du maïs, du lin, du blé et de la viande. Mais donc, voilà. Et du point de vue de l'agriculture, donc, l'Europe accepte finalement d'importer de très loin, voire de très très loin, hein, d'Australie, c'est loin, l'Argentine c'est loin, son approvisionnement, y compris alimentaire. Hein. Le Royaume-Uni importe 81% de son blé. En 1913, 81% du blé consommé en Angleterre est importé. Encore aujourd'hui, on n'est pas du tout revenu en Europe à ce genre de niveau d'importation, mais pas du tout, du tout. Il y a des endroits où on va trouver ça, c'est à Singapour, peut-être, ou des endroits comme ça, des villes-états. Mais 81% du blé, 42% de la viande, 95% des huiles végétales, mais même pour les matières premières, 97% des fibres textiles, 97% des fibres textiles sont importées, 87% du bois. Donc, vraiment, on vit sur la biomasse du monde entier. En fait, le Royaume-Uni, qui est vraiment le modèle, disons, que les autres imitent plus ou moins, on va en discuter tout de suite après, vivent sur l'importation de biomasse alimentaire et non alimentaire qui vient du monde entier. Dernier point peut-être à insister, puis on en rediscutera, je pense, c'est que on est sur une logique de libre-échange. On n'est pas sur une logique de logique impériale, c'est-à-dire de contrôle militaire de territoires lointains dont on s'approprierait les ressources sur un rapport de prédation. On est dans une logique d'échange. Alors, on pourrait parler de néo-impérialisme, on peut parler de tas de choses comme ça, mais malgré tout, il faut constater que, si on a les chiffres pour ça, les colonies représentent une part relativement faible, mineure en tout cas, de l'approvisionnement en biomasse du Royaume-Uni ou de la France. Et que dans cet approvisionnement en biomasse qui provient des colonies, la part essentielle en fait revient des dominions, c'est-à-dire des colonies de peuplement des pays néo-européens dont je parlais l'autre fois, c'est-à-dire Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. En fait. Les colonies, au sens vraiment l'image qu'on peut avoir des colonies d'Afrique ou d'Asie, finalement jouent un rôle relativement mineur, sauf l'Inde. L'Inde est un peu l'exception dans le cas de l'Angleterre. Dans le cas de la France, c'est très peu. En fait, si vous voulez, on en reparlera, mais la question de l'approvisionnement colonial, il va se reposer dans l'entre-deux-guerres. En fait, la question coloniale se pose dans les phases de rivalité interhégémonique. C'est-à-dire la question de sécuriser militairement, administrativement, un approvisionnement en matières premières et en biomasse en particulier, c'est une question des phases de rivalité interhégémonique. C'est peut-être la question d'aujourd'hui, hein, qu'on voit émerger avec Trump. Voilà donc pour ce qui est de la situation avec l'hégémone anglais. La dernière phase d'hégémonie dont je vais parler, c'est celle de l'après-45 liée aux États-Unis, où les États-Unis sont l'hégémone, on voudrait dire incontesté. Alors avec cette question de comment traiter la question de l'Union soviétique, mais en fait on a une telle fragmentation de l'économie mondiale que l'économie mondiale, l'extension de l'économie mondiale européenne, elle n'inclut pas l'Union soviétique, ou peu, sauf sur les questions énergétiques, mais j'en parlerai pas maintenant. Les États-Unis vont émerger comme hégémone après une phase de rivalité, comme l'Angleterre avait émergé après une phase de rivalité, qui là va opposer d'un côté l'Angleterre qui s'affaiblit, qui perd sa position progressivement, et de l'autre côté l'Allemagne et les États-Unis. Hein, les deux rivaux, précédemment c'était la France et l'Angleterre, là c'est l'Allemagne et les États-Unis. C'est une rivalité qui va donner lieu à deux guerres mondiales, hein, la première et la deuxième, et se sanctionner par la victoire des États-Unis. L'Allemagne a été un fournisseur de biomasse de l'Angleterre à une époque. Elle a fourni de la laine, hein, en quantité à l'Angleterre. Et va autour du 19e... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une stratégie consciente, d'une stratégie maîtrisée? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment le pays. Mais on voit, au cours du 19e siècle, une économie allemande se constituer, un pays même se constituer, par une série de guerres, hein, contre l'Autriche, contre la France en 1870, par une politique protectionniste, fort du secteur industriel. Et on a l'impression, pour caricaturer un peu, que l'Allemagne cherche une voie alternative à la voie anglaise, qui est celle du commerce à longue distance. D'une certaine façon, on a l'impression que l'Allemagne cherche à faire tout sur son propre pays, à tout tirer du territoire national, un peu comme l'a fait l'Angleterre au XVIIIe siècle, et à tout faire avec du charbon. Tout faire avec du charbon plutôt qu'importer. Et cette histoire de chimie dont je vous ai parlé précédemment, c'est une histoire allemande. C'est-à-dire, c'est vraiment l'illustration de la stratégie allemande d'arriver à tout faire avec du charbon, ou faire le maximum, disons, avec du charbon, et ne pas dépendre de sources d'approvisionnement lointaines, parce qu'elle ne contrôle pas les mers, parce qu'elle a peu de colonies, ce sera souvent évoqué. Et donc, on essaye de tout faire avec du charbon. et d'exploiter au maximum le sous-sol. Alors, je me suis toujours posé la question de savoir si les betteraves et la pomme de terre, qui sont des spécialités allemandes, étaient aussi une manifestation de cette exploitation du sous-sol. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais c'est assez rigolo de constater ça. Et donc, le développement de la chimie allemande autour des produits de synthèse, en fait, ça répond à ça. Et la synthèse de l'ammoniac, le procédé Haber-Bosch, il se fait chez BASF, hein, il se fait chez le chimiste allemand, et il permet de faire des engrais azotés, certes, de ne plus dépendre du Chili pour avoir de l'azote, mais aussi de faire des explosifs et de faire la Première Guerre mondiale, aura besoin beaucoup d'explosifs. Donc ça, c'est l'affaire allemande, et qui va rebondir dans l'entre-deux-guerres avec une stratégie d'expansion. En fait, l'enjeu pour l'Allemagne, il faut... En France, on a du mal à penser ça, je crois. Mais l'enjeu pour l'Allemagne, c'est la Russie, c'est pas la France. La France, il fallait neutraliser la France pour pouvoir aller vers l'Est. Mais l'enjeu, c'était la colonisation de la Russie, avec un discours allemand, enfin, qui est chez Hitler, qui est très clair, qui est de dire « Mais les États-Unis ont fait ça sur leur propre continent, les Anglais ont fait ça en Inde, nous, on va faire ça en Russie. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire, nous aussi. Hein, » Et l'enjeu, c'est la colonisation de la Russie et de constituer un grand espace, un grand territoire unifié, comme à l'image des États-Unis. Le modèle, c'est les États-Unis pour l'Allemagne. Les États-Unis, justement, donc, eux, c'est un pays de front pionnier, vraiment un exemple type, hein, vous avez tous vu des westerns, des fronts pionniers, qui s'est construit en bonne partie autour de l'exportation de coton pour le sud, mais aussi de blé, de maïs pour le nord, et avec un secteur industriel qui va se développer, en fait, de manière très dynamique, parce qu'il y a une croissance très forte liée aux migrations et liée à l'urbanisation. Bon, on a cet épisode de la guerre de sécession, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle en France, la guerre civile, disent les Américains, de 1860, qui va consolider l'économie nationale, le modèle national des États-Unis. Mais la logique de front pionnier, elle arrive à ses limites, en fait, à la fin du 19e siècle, en 1900 à peu près. Il y a un texte très connu qui signale ça, en gros. C'est-à-dire que les terres qui pouvaient être défrichées, ou en coupant la forêt, ou en retournant la prairie, elles ont à peu près toutes été défrichées à la fin du 19e siècle. Et du point de vue de la biomasse, les États-Unis rentrent alors en crise. C'est-à-dire qu'on va avoir progressivement un déficit croissant de la balance des échanges de biomasse des États-Unis, et qui vont devenir même déficitaires, hein, en particulier du point de vue des oléagineux, mais pas seulement. Mais parce qu'on a une stagnation de la production et un boom de la demande intérieure. Et puis on a une crise écologique qui va s'installer dans l'agriculture européenne. On a tous lu ou vu les raisins de la colère, hein, ces gens de l'Oklahoma qui quittent leur ferme parce que la terre est partie. En fait, ils ont exploité comme des sauvages, entre guillemets, leur sol. Et ils ont généré une érosion incroyable des sols et qui, lors des tempêtes les grosses tempêtes de vent, emmène tout. Donc on a une crise de ce modèle vraiment du front pionnier, de la dynamique pionnière qui est arrivée à ses limites, et ce à quoi va se rajouter la crise économique à partir de 1930. On rentre alors dans une nouvelle phase qui est vraiment, il faut lui donner sa double dimension. D'un côté, c'est vraiment la construction ou la finalisation de la construction d'une économie nationale. Il faut considérer, et jusqu'aux années 70, hein, 1970, que les États-Unis, ce n'est pas du tout le Royaume-Uni du 19e siècle. C'est le modèle de l'économie nationale. C'est un pays qui a énormément de ressources, qui a du pétrole, qui a des minerais, qui a de l'agriculture. Et son modèle, c'est de boucler tout dans le cadre national. Le modèle de Roosevelt, le modèle de la politique keynésienne, c'est d'arriver à avoir une croissance qui repose entièrement sur l'espace national, sur le marché national. On va produire tout ce qu'on consomme, on consomme tout ce qu'on produit. Et on va créer la demande nécessaire à absorber la production qu'on n'arrête pas d'augmenter, en fait, du fait de cet usage des énergies fossiles. C'est donc ce modèle-là, il se met en place au cours du New Deal, avec l'effondrement des échanges internationaux, etc., etc., dans les années 30. Le modèle agricole de l'agriculture de la chimie, de l'agriculture industrielle, il se met aussi à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vont s'assembler engrais azotés, engrais de synthèse, tracteurs et pesticides. C'est là que ça se met en place. Et ce sera un peu plus renforcé, effectivement, par la Deuxième Guerre mondiale, avec une montée en puissance de l'industrie chimique. Il faut savoir que l'industrie chimique allemande, elle était américaine, par exemple, était pratiquement inexistante avant 1914. Et en fait, elle va se construire après, dans l'entre-deux-guerres, sur la base des ressources allemandes. En fait, une des composantes du traité de Versailles qui met fin à la Première Guerre mondiale, c'est que ce traité valide l'expropriation des capitaux et des brevets allemands par les États-Unis, de la chimie allemande. En fait, les Américains construisent leur industrie chimique, qui va jouer un rôle si important pour l'agriculture après, en expropriant les Allemands, l'industrie chimique allemande. C'est assez, voilà, c'est un des signes du rôle des guerres, hein, de l'importance des guerres, et de comprendre ça pour comprendre comment les choses se passent. Donc, les éléments sont en place. Après la Deuxième Guerre mondiale, le modèle a commencé à diffuser dans l'agriculture. On a une industrie chimique qui s'est constituée, qui s'est beaucoup renforcée en fournissant des matières premières pour la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va se reconvertir dans la production d'engrais, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale. Après 1945, donc la logique que porte l'hégémone et auquel beaucoup de pays adhèrent, c'est une logique d'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas une logique d'exportation, ce n'est pas une logique de libre-échange, c'est une logique d'autosuffisance alimentaire et où on a des excédents, parce qu'en fait la surproduction est le problème récurrent de cette agriculture qui marche si bien, parce qu'on injecte tellement de pétrole dedans qu'elle marche très bien, elle produit beaucoup. Et le problème, c'est les excédents. Hein, c'est les excédents, mais on n'est pas sur une logique de division internationale du travail comme au 19e siècle, on n'est pas sur une logique de spécialisation, on est sur une logique de régulation du marché intérieur qui peut faire que, pour équilibrer ce marché intérieur, on peut avoir des excédents ou on peut avoir des déficits suivant le pays où on est. Mais on n'est pas dans une division internationale du travail, on échange des excédents et des déficits. J'espère que je me fais bien comprendre là-dessus. Et en fait, les règles internationales au niveau de l'agriculture et du commerce agricole qui sont fixées par le GATT, hein, l'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers de 1947, laissent carte blanche totalement du point de vue des politiques agricoles. On fait ce qu'on veut dans le domaine des politiques agricoles. C'est l'âge de la souveraineté alimentaire, on pourrait dire, pour reprendre un thème d'aujourd'hui. Vraiment, on peut faire absolument ce qu'on veut, on peut protéger ce qu'on veut, on peut subventionner ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et les pays développés, qu'on va appeler ensuite les pays développés, l'Europe, les États-Unis, ne vont pas se priver de faire ça. Dans ce contexte-là, effectivement, je l'ai déjà dit, on a un problème de surproduction récurrent, très vite qui vient. En fait, les États-Unis se posent la question dès la fin de la guerre, en se disant, mais toutes ces ressources-là qu'on a accumulées, toute cette capacité de production qu'on a accumulée pour faire la guerre, qu'est-ce qu'on va en faire après la guerre? Et dans le domaine agricole, en fait, le problème va se poser très vite. Et l'enjeu, c'est de trouver des nouveaux débouchés. Il faut trouver des nouveaux débouchés. Le premier nouveau débouché qui va être trouvé, et vraiment, il y a des textes qui sont très explicites là-dessus, c'est la viande. Il y a un texte d'un haut fonctionnaire américain qui dit ça très clairement. J'ai l'astuce, moi, pour nous débarrasser des excédents de maïs et de soja qui a commencé à se développer. C'est qu'il faut le donner aux animaux. C'est formidable, les animaux, pour faire une calorie, ils en ont besoin de 4 calories végétales. C'est formidable, on va pouvoir se débarrasser de tous ces excédents en les donnant aux animaux. Et effectivement, il y a eu vraiment une stratégie très volontariste de développer la production et la consommation de viande. Il y a eu des campagnes pour la viande. Le deuxième moyen de se débarrasser des excédents, c'est l'aide alimentaire, qui va prendre place à la fin des années 50, des années 60, où c'est une logique d'excédent. Hein. L'aide alimentaire est jusqu'à sa disparition, disons pratiquement dans les années 2000. L'aide alimentaire, les volumes d'aide alimentaire sont proportionnels au niveau des stocks mondiaux. Et inversement, donc proportionnel au niveau des prix. Hein, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'aide alimentaire quand il y a beaucoup de produits et donc quand les prix sont relativement bas. Troisième astuce, mais ça c'est ce qu'ils proposent aux Américains, ça va être de faire du sucre de maïs, du sucre qui va être utilisé à tour de bras dans les boissons gazeuses et qui est un des fondements de la crise de l'obésité américaine. Hein, c'est quand même l'utilisation de ces produits sucrants à base de maïs. Et le dernier avatar qu'on a connu aussi en Europe, c'est les biocarburants. Les biocarburants, le biodiesel, l'éthanol et tout ça, c'est juste une façon d'utiliser les excédents. C'est pas du tout un truc écolo. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de tous ces produits dont on ne sait pas quoi faire. Et ben, on va les mettre dans nos moteurs. Et donc, c'est une façon, dans un moment où ça commence à se libéraliser, d'offrir une compensation finalement aux producteurs d'oléagineux et de céréales. Ça, c'est le modèle. Donc, le modèle, c'est cette agriculture avec ses trois composantes, pesticides, engrais azotés, tracteurs. La quête de l'autosuffisance, donc de marchés nationaux relativement protégés, très régulés, des prix stables. Et ce modèle, il va se diffuser, se répliquer un peu partout dans le monde. C'est ce que vont faire les Européens à l'échelle élargie, c'est-à-dire dans le cadre de l'Europe, hein, de la communauté économique européenne, on va faire la même chose. Mais c'est aussi ce qu'on va appeler le développement et la révolution verte dans les pays dits du tiers-monde. Hein. C'est de répliquer ce modèle auquel tout le monde adhère, d'une certaine façon. Donc de nouveau, avec des échanges internationaux qui sont plutôt résiduels dans tout ce contexte-là, dans toute cette période-là. Hein, c'est logique d'excédent de déficit. Tout le monde cherche l'autosuffisance. Tout le monde n'en a pas les moyens. Hein, le Japon n'en a pas les moyens. Un certain nombre de pays n'en ont pas les moyens. Mais tout le monde l'a comme objectif. Et tout le monde protège son marché intérieur. Tout le monde cherche à stabiliser ses prix intérieurs. L'hégémonie américaine va connaître un nouveau souffle parce qu'on s'interroge dès les années 70 hein, sur la crise de l'hégémonie américaine. Il y a eu un certain nombre de bouquins. Et en fait, elle va rebondir dans les années 80 à partir de Reagan et d'autres avec une logique tout à fait autre qui est celle de la mondialisation, hein, telle qu'on la connaît, de la globalisation, en fait, de retrouver plutôt ce qu'était le modèle anglais du 19e siècle. Donc le développement des échanges, libéralisation des économies, développement des inégalités, hein, on a tous entendu parler de ces problèmes-là, développement de la finance aussi, hein, à tour de bras, financiarisation des économies. Et ça va donner un nouveau souffle, on pourrait dire, avec derrière la numérisation hein, des économies en fait, qui est portée, qui est dominée par les États-Unis, un nouveau souffle, un regain, on pourrait dire, de l'hégémonie américaine. Du point de vue de la biomasse, il n'y a pas de changement majeur. C'est-à-dire qu'on va avoir une libéralisation des politiques agricoles, donc on va plus avoir il va y avoir des règles concernant les politiques agricoles qui vont être adoptées, dans le cadre de l'OMC hein, en 92, qui vont limiter la liberté, la marge de manœuvre des pays, pour ce qui est du type de droits de douane qu'ils peuvent mettre, du type de subvention, etc., etc. Mais il n'y aura pas de changement de la façon de produire, en fait, et de consommer les produits agricoles. Très peu. C'est-à-dire que le modèle de l'agriculture, de la chimie, reste largement dominant. Il continue de se diffuser un peu partout dans le monde, hein, en Inde, au Brésil, en Argentine. C'est ce modèle-là qui se développe. Qui est la seule innovation, on pourrait dire, c'est les biocarburants. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, en fait, c'est initialement vraiment une logique de gestion des excédents qui nous renvoie plutôt au modèle antérieur. En fait. Le grand changement, enfin, on le sait tous maintenant, de cette période, c'est la montée de la Chine. Hein, c'est l'émergence de la Chine qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, il n'y a pas de précédent historique à ce qui s'est passé avec la Chine. Il faut vraiment avoir ça en tête. Hein, on ne le sait pas assez, je pense qu'on ne le dit pas assez. Il n'y a pas de précédent historique à une montée aussi rapide dans l'économie mondiale d'un pays. Bon, un pays qui fait quelques 1,2 milliard d'habitants malgré tout. Mais en quelques deux décennies, la Chine retrouve le rang qu'elle avait à la fin du 18e siècle, c'est-à-dire d'être la plus grande économie du monde, hein, de contrôler 15 à 20% du revenu mondial. C'est un phénomène majeur. Et pour l'instant, la Chine, dans sa dynamique, ressemble un peu à l'Angleterre, c'est-à-dire qu'atelier du monde, avec une très forte croissance des importations de biomasse, là pour le cas, on a quelque chose d'assez particulier, mais avec une échelle nettement accrue, hein, on est passé d'un pays de l'Angleterre à la Chine, donc en termes d'échelle, c'est tout à fait autre chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine importe plus de biomasse alimentaire que l'Union européenne. L'Europe a historiquement été le centre des marchés mondiaux, enfin depuis deux siècles, et là, ces marchés ont basculé vers la Chine, vers l'Asie, et la Chine en particulier. Donc on est dans une situation, et je vais arrêter là, hein, très... On aurait pu penser qu'on allait vers un scénario à l'anglaise. L'arrivée de Trump perturbe beaucoup le jeu. Ça ressemble de plus en plus à quelque chose comme une période de rivalité interhégémonique, effectivement, avec une montée du nationalisme un peu partout. Hein. On a eu les élections en Roumanie ce week-end qui sont encore une illustration. La remise en cause des règles et des institutions par le pays même qui les avait créées, les institutions de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc voilà, et on voit des comportements de type prédateur, de type colonial, hein, qui effectivement sont en train d'émerger du côté des États-Unis avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Groenland. Donc voilà, on commence à avoir un certain nombre d'indicateurs qui sont les indicateurs de la phase interhégémonique, qui pourrait être la phase d'émergence d'un nouveau modèle, mais il est beaucoup trop tôt pour pouvoir encore identifier ce que seraient les composantes de ce nouveau rapport à la biomasse.
Il me semble que tu as un ouvrage qui reprend un peu tout ça, tu pourrais juste donner le titre et où il est.
Oui, c'est un ouvrage qui s'appelle « Biomasse, deux points, une histoire de richesse et de puissance ».
Qu'on peut retrouver où, si on veut le lire ?
Alors, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit dans ces cas-là, mais en fait, surtout qui est accessible gratuitement, en fait, en format électronique ou EPUB ou PDF, sur le site de l'éditeur Quae, qui est l'éditeur de l'INRA et du CIRAM.
D'accord. Très bien. Bah, merci beaucoup, Benoît. On sait que c'était un exercice pas simple hein, de clôturer cette thématique en 3 émissions de 30 minutes. Tu es quand même parti de loin et tu es arrivé à l'actualité d'aujourd'hui jusqu'à Trump. Donc bravo pour ce travail. Cette introduction autour de l'alimentation, de l'histoire de l'agriculture va nous permettre d'enchaîner sur d'autres sujets. Est-ce que peut-être on peut en dire quelques-uns ?
Oui, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce qu'on avait identifié comme activité du système alimentaire, donc celui de la production agricole, celui de la transformation, à travers en particulier le monde des artisans qui transforment les produits agricoles en produits alimentaires. Et puis ensuite, on aura celui, le monde de la distribution, et après, on parlera de la consommation. Et petit à petit, à ça, on agrégera certainement d'autres activités, comme celle évoquée par Benoît dans ces 3 émissions, qui est la question des déchets. On fera aussi un petit détour par la construction de la filière de l'aide alimentaire européenne.
Très bien. Bah merci beaucoup à tous les deux, Dominique Paturel et Benoît d'Aviron. Et merci encore, Benoît, pour cette genèse qui nous permet de partir sur des bases communes en termes de connaissances. Et je reprécise juste que si vous voulez écouter l'émission La Chichoumaille de Résistance, c'est sur www.rphfm.org.
Merci à vous.
Merci à tous.
Au revoir.